Salvette et Bernadou, chapitre 1. C'est la veille de Noël, dans une grosse ville de Bavière. Par les rues blanches de neige, dans la confusion du brouillard, le bruit des voitures et des cloches, la foule se presse, joyeuse, aux rôtisseries en plein vent, aux baraques, aux étalages. Frôlant avec un bruissement léger les boutiques enrubannées et fleuries, des branches de houverts, des sapins entiers chargés de pendeloques, passe, portée à bras, dominant toutes les têtes, comme une ombre des forêts de Thuringe, un souvenir de nature dans la vie factice de l'hiver. Le jour tombe. Là-bas, derrière les jardins de la résidence, on voit encore une lueur de soleil couchant, toute rouge à travers la brume, et il y a, par la ville, une telle gaieté, tant de préparatifs de fête, que chaque lumière qui s'allume aux vitres semble pendre à un arbre de Noël. C'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas un Noël ordinaire. Nous sommes en l'an de grâce 1870. Et la naissance du Christ n'est qu'un prétexte de plus pour boire à l'illustre von der Tann et célébrer le triomphe des guerriers bavarois. Noël, Noël ! Les Juifs de la ville basse eux-mêmes sont en liesse. Voilà le vieil Auguste Kahn, qui tourne en courant le coin de la grappe bleue. Jamais ses yeux de furet n'ont relui comme ce soir. Jamais sa petite couette en broussailles n'a frétillé si allègrement. Dans sa manche usée aux cordes des besaces est passé un honnête petit panier, plein jusqu'au bord, couvert d'une assiette bise, avec le goulot d'une bouteille et une branche de houx qui dépasse. Que diable le vieil usurier compte-t-il faire de tout cela ? Est-ce qu'il fêterait Noël, lui aussi ? Aurait-il réuni ses amis, sa famille, pour boire à la patrie allemande ? Mais non. Tout le monde sait bien que le vieux Kahn n'a pas de patrie. Son Vaterland à lui, c'est son coffre-fort. Il n'a pas de famille non plus, pas d'amis. Rien que des créanciers. Ses fils, ses associés plutôt, sont partis depuis 3 mois avec l'armée. Ils trafiquent là-bas, derrière les fourgons de la Landwehr, vendant de l'eau-de-vie et achetant des pendules, et, les soirs de bataille, s'en allant retourner les poches des morts, éventrer les sacs tombés au fossé des routes. Trop vieux pour suivre ses enfants, le père Kahn est resté en Bavière, et il y fait des affaires magnifiques avec les prisonniers français. Toujours à rôder autour des baraquements, c'est lui qui rachète les montres, les aiguillettes, les médailles, les bons sur la poste. On le voit se glisser dans les hôpitaux, dans les ambulances. Il s'approche du lit des blessés et leur demande tout bas en son hideux baragouin. « A fait fou quelque chose à fendre ?»« Étonné. En ce moment même, si vous le voyez trotter si vite avec son panier sous le bras, c'est que l'hôpital militaire ferme à 5 heures. » Et qu'il y a 2 Français qui l'attendent là-haut, dans cette grande maison noire aux fenêtres grillées et étroites, où Noël n'a, pour éclairer sa veillée, que les pâles lumières qui gardent le chevet des mourants. Chapitre 2. Ces 2 Français s'appellent Salvette et Bernadou. Ce sont 2 chasseurs à pied, 2 Provençaux du même village, enrôlés au même bataillon et blessés par le même obus. Seulement, Salvette avait la vie plus dure, et déjà il commence à se lever, à faire quelques pas de son lit à la fenêtre. Bernadou, lui, ne veut pas guérir. Dans les rideaux blafards de son lit d'hospice, sa figure paraît plus maigre, plus languissante de jour en jour. Et quand il parle du pays, du retour, c'est avec ce sourire triste des malades, où il y a bien plus de résignation que d'espérance. Aujourd'hui, cependant, il s'est animé un peu en pensant à cette belle fête de Noël qui, dans nos campagnes de Provence, ressemble à un grand feu de joie allumé au milieu de l'hiver, en se rappelant les sorties des messes de minuit, l'église parée et lumineuse, les rues du village toutes noires, pleines de monde, puis la longue veillée autour de la table, les 3 flambeaux traditionnels, l'aïoli, les escargots et la jolie cérémonie du cachofillo, bûche de Noël, que le grand-père promène autour de la maison et arrose avec du vin cuit. « Ah, mon pauvre Salvette, quel triste Noël nous allons faire cette année. Si seulement on avait eu de quoi se payer un petit pain blanc et une fiole de vin clairet. Ça m'aurait fait plaisir, avant de passer l'arme à gauche, d'arroser encore une fois le cachofillot avec toi. » Et en parlant de pain blanc et de vin clairet, le malade a les yeux qui brillent. Mais comment faire? Ils n'ont plus rien, les malheureux, ni argent ni montre. Salvette garde bien encore, dans la doublure de sa veste, un bon de poste de 40 francs. Seulement, c'est pour le jour où ils seront libres, et la première halte qu'on fera dans une auberge de France. Cet argent-là est sacré, pas moyen d'y toucher. Pourtant, ce pauvre Bernadou est si malade. Qui sait s'il pourra jamais se remettre en route pour retourner là-bas? Et puisque voilà un beau Noël qu'on peut encore fêter ensemble, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux en profiter? Alors, sans rien dire à son pays, Salvette a décousu sa tunique pour prendre le bon de poste, et quand le vieux Cane est venu, comme tous les matins, faire sa tournée dans les salles, après de longs débats, des discussions à voix basse, il lui a glissé dans la main ce carré de papier, raide et jauni, sentant la poudre et taché de sang. Depuis ce moment, Salvette a pris un air de mystère. Il se frotte les mains et rit tout seul en regardant Bernadou. Et maintenant que le jour tombe, il est là, à guetter, le front collé aux vitres, jusqu'à ce qu'il ait vu dans le brouillard de la place déserte le vieil Auguste Cane, tout essoufflé, qui arrive, un petit panier au bras. Chapitre 3. Ce minuit solennel, qui sonne à tous les clochers de la ville, tombe lugubrement dans la nuit blanche des malades. La salle d'hospice est silencieuse, éclairée seulement par les veilleuses suspendues au plafond. De grandes ombres errantes flottent sur les lits, les murs nus, avec un balancement perpétuel qui semble la respiration oppressée de tous les gens étendus là. Par moments, il y a des rêves qui parlent haut, des cauchemars qui gémissent, pendant que de la rue monte un murmure vague, des pas, des voix, confondus dans la nuit sonore et froide, comme sous un porche de cathédrale. On sent la hâte recueillie, le mystère d'une fête religieuse traversant l'heure du sommeil, et mettant dans la ville éteinte la lueur sourde des lanternes et l'embrasement des vitraux d'église. Est-ce que tu dors, Bernadou? Tout doucement, sur la petite table, près du lit de son ami, Salvette a posé une bouteille de vin de Lunel, un petit pain rond, un joli petit pain de Noël où la branche de houx est plantée toute droite. Le blessé ouvre ses yeux cernés de fièvre. À la lumière indécise des veilleuses et sous le reflet blanc des grands toits, où la lune s'éblouit dans la neige, ce Noël improvisé lui semble fantastique. Allons, réveille-toi, pays! Il ne sera pas dit que deux Provençaux auront laissé passer le réveillon sans l'arroser d'un coup de clairette. Et Salvette le redresse avec des soins de mère. Il emplit les gobelets, coupe le pain, et l'on trinque et l'on parle de la Provence. Peu à peu, Bernadou s'anime, s'attendrit. Le vin blanc, des souvenirs. Avec cette enfance que les malades retrouvent au fond de leur faiblesse, il demande à Salvette de lui chanter un Noël provençal. Le camarade ne demande pas mieux. « Voyons, lequel veux-tu? Celui de l'hôte ou les trois rois? Ou Saint-Joseph m'a dit? » « Non, j'aime mieux les bergers. C'est celui que nous chantions toujours à la maison. » « Va pour les bergers. » À demi-voix, la tête dans les rideaux, Salvette commence à fredonner. Tout à coup, au dernier couplet, quand les pâtres, venant voir Jésus dans son étable, ont déposé sur la crèche leur offrande d'œufs frais et de fromageons, et que, les congédiant d'un air affable, Joseph leur dit « Allons, soyez bien sages, tournez-vous-en et faites bon voyage. Berger, prenez votre congé. » Voilà le pauvre Bernadou qui glisse et retombe lourdement sur l'oreiller. Son camarade, pensant qu'il s'endort, l'appelle, le secoue. Mais le blessé reste immobile. et la petite branche de houx en travers, sous le drap rigide, semble déjà la palme verte que l'on met au chevet des morts. Salvette a compris. Alors, tout pleurant, un peu ivre de la fête et d'une si grande douleur, il reprend à pleine voix, dans le silence du dortoir, le joyeux refrain de Provence. « Berger, prenez votre congé. » Alphonse Daudet, lu par Sabine, pour Audiocité, sous la licence Art Libre.